Il va y avoir trois petits nouveaux à la table du Conseil des ministres ce matin. Le gouvernement compte trois nouveaux secrétaires d'État. Sibeth Ndiaye, qui est porte-parole, Amélie de Montchalin, chargée des affaires européennes, et Cédric O, qui hérite du numérique. Ils remplacent respectivement Benjamin Griveaux, Nathalie Loiseau et Mounir Majoubi, partis faire campagne, soit pour les européennes, soit pour les municipales à Paris. Bonjour Stéphane Rosès.
Bonjour.
Vous êtes politologue, président de la société de conseil CAP, également enseignant à Sciences Po et à HEC. Trois entrants donc, trois trentenaires. Trois novices aussi ?
Oui, des novices, bien sûr, mais des fidèles de la première heure du président Macron. Alors, des novices parce que même si les titres sont, les postes sont relativement modestes, ils n'avaient pas une expérience véritablement en première ligne des affaires politiques. Et on sait que la période est une période instable, troublés, ce ne sont pas des politiques, ce sont plutôt des profils techniques, mais ils représentent un grand avantage de sécuriser un dispositif qui a été soumis à rude épreuve dans la dernière période.
Oui, parce que ce sont des marcheurs de la première heure, tous les trois ?
Oui, absolument. Tous les trois des marcheurs de la première heure, d'origines diverses d'ailleurs. Amélie de Montchalin est plutôt, était jupéiste, alors que Sibeth Ndiaye et Cédric O étaient des strauss-kahniens, donc venant de la gauche libérale. Mais dès le départ, ils font partie de la première équipe d'Emmanuel Macron, dont je rappelle qu'il y a 5 ans, il était inconnu des Français et hors système politique installé. Donc, pour Emmanuel Macron, c'est le choix de la fidélité, de la sûreté, parce que le moment est un moment très instable politiquement. D'abord, il faut réagir rapidement. Prenons le cas, là, Conseil des ministres aujourd'hui, qui est rapproché, puisque le président continue, lui, de son côté, à débattre. Et puis, il va y avoir, le 8 avril, la restitution du grand débat. Donc, il va falloir communiquer. Il y a la campagne européenne, donc le poste de ministre des Affaires européennes s'est transformé en secrétariat d'État,
oui,
mais néanmoins.
Ça, vous trouvez voilà. Ça comment vous l'analysez, le fait d'avoir perdu un peu de faire perdre de l'envergure à ce poste-là quand
même. C'est une façon sans doute de signifier que le moment actuel pour les affaires européennes, c'est la campagne. Pour le président Macron, c'est de dire la renaissance européenne, c'est maintenant, tout se joue auprès des citoyens en France et en Europe. Et puis, il faut pas se cacher les choses, hein. Même du moment de Nathalie Loiseau, les grandes orientations stratégiques, c'était le président Macron qui les détenait, et relativement aussi le ministre Le Drian, mais d'abord le président Macron.
Et j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur Sibeth Ndiaye. Hein, c'est la fidèle des fidèles. Hein, elle s'occupait de la presse jusqu'à présent pour l'Élysée. Donc maintenant, elle va devenir porte-parole du gouvernement. À ce poste-là, porte-parole, c'est un poste éminemment stratégique. On met forcément quelqu'un en qui on a une confiance absolue.
Oui, effectivement, on met quelqu'un en qui on a une confiance absolue. C'est le cas, hein. Vraiment, dès le départ, elle est dans les équipes pendant la campagne. Elle prépare, elle aménage des choses. Bon, alors c'est en même temps une personnalité qui très vite a intrigué, hein. Parce que elle est un tout petit peu quand même disruptive, hein. Elle parle un peu cash, hein.
Elle a du caractère.
Enfin, très cash. Une fois, par exemple, elle a dit qu'elle assumait parfaitement de mentir s'il s'agissait de protéger Emmanuel Macron. Et puis, elle avait été à l'initiative de cette vidéo un peu controversée. Elle devait penser que c'était mis en termes de communication sur le pognon de dingue et s'agissant des aides sociales. Donc, c'est une personnalité un peu cash. Bon, elle est encore relativement jeune, mais voilà, il va falloir qu'elle se polisse et puis qu'elle comprenne au fond ce que la Macronie commence à comprendre maintenant, c'est que le peuple français est un peuple très politique et que la période actuelle est une période très instable et qu'on ne joue pas trop avec les fondamentaux du pays. Le nouveau monde arrive dans un pays très ancien avec des traditions politiques et aujourd'hui nous sommes encore dans la fin des gilets jaunes qu'on peut analyser comme une jacquerie. Donc ce sont des choses très anciennes qui demandent voilà une bonne analyse des profondeurs du pays.
Est-ce que c'est aussi la nomination de Sibeth Ndiaye pour Emmanuel Macron une manière d'avoir une oreille supplémentaire au sein du gouvernement, de savoir exactement ce qui s'y passe ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ce gouvernement est quand même autour d'Édouard Philippe très resserré. Il y a une forte homogénéité. Mais derrière votre question, il y a effectivement une interrogation sur le fait de le type de présidence d'Emmanuel Macron. Il y a pas mal d'échos de presse en ce moment montrant qu'il est un tout petit peu isolé.
Voilà.
Quelle est la difficulté? C'est que tout se passe comme si le président avait le monopole des grandes questions politique et qu'il attendait de son entourage une compétence, une efficacité technique. J'ai été étonné d'entendre Amélie de Montchanin expliquer hier soir, dès sa nomination connue, utiliser le terme de métier parlant de sa fonction présidentielle. Alors, elle s'est reprise ensuite, mais ça dit
de
bien...
sa fonction gouvernementale.
Voilà, ouais. À sa nouvelle fonction... Voilà, fonction gouvernementale. Voyez, on a été alerté par les mêmes termes. Donc, ça dit assez le type de fonctionnement un peu nouveau, c'est-à-dire Emmanuel Macron a le monopole de la politique, de la symbolique, du rapport au pays, et puis pour le reste, il attend des techniciens, des gens qui seraient sur le registre de la pure efficacité. Dans un pays, au fond, depuis des siècles, les dimensions temporelles et les dimensions symboliques et spirituelles du politique sont tout à fait liées.
En faisant ce choix de nommer notamment Sibeth Ndiaye et Cédric O au gouvernement, il perd quand même deux conseillers, deux personnes qui étaient avec lui à l'Élysée. Ça commence à faire beaucoup. Il lui reste qui à l'Élysée de sa garde rapprochée?
Eh bien, parmi les inspirateurs, beaucoup de gens importants sont partis. Par exemple, si j'ai en tête quelqu'un qui, à mon avis, était très important, qui était Sylvain Faure, qui ancrait le président dans la question des cohérences, du récit, qui était quelqu'un d'une très très grande culture. Les autres qui ont pu partir étaient de niveau sans doute moins profond que Sylvain Faure, mais il reste très peu de gens autour du président. Il reste une personne qui est tout à fait essentielle, qui est de grande ampleur, qui est son épouse, Brigitte Macron, je crois, qui pèse énormément. Et sinon, il y a Jean-Yves Le Drian qui demeure le politique. Il y a sinon des
Au sein du gouvernement, pas à l'Élysée.
Au sein du gouvernement, effectivement, mais au sein de l'Élysée, il y a toujours Alexis Kohler, qui est quelqu'un de très très important dans le dispositif, qui en ce moment perturbé par deux types d'affaires un peu différentes, mais qui est quelqu'un qui demeure très central dans le dispositif.
Est-ce qu'Emmanuel Macron épuise ses troupes? Est-ce qu'il a du mal à déléguer? On le dit en ce moment qu'il est à la fois épuisé, mais épuisant aussi parce qu'il demande beaucoup à tous ceux qui travaillent autour de lui. Certains le disent même proche du burn-out.
Oui, alors on ne dirait pas avoir le président dans les grands débats encore récemment face aux enfants, donc il a une résistance exceptionnelle. Mais quelle est la difficulté? C'est que il peine à faire récit. Son lien avec le pays s'est délité. Son lien avec l'Allemagne s'est délité, pas de son fait, du fait de l'Allemagne, de la fin de non-recevoir d'Angela Merkel et de ce que l'on croit comprendre de ceux qui vont arriver maintenant. Donc le président semble un tout petit peu suspendu en l'air. Il concentre tout et surtout, il ne fait pas un récit cohérent de là où il veut amener le pays. De sorte que son entourage est sans cesse dans la contingence, dans l'imprévisibilité, à se demander que veut précisément le président Macron, qu'est-ce qu'il dira demain. Et c'est cette désindexation, ce désenracinement du président à la fois dans ce qu'est la nation, dans une cohérence de récit que portait autrefois par exemple Sylvain Faure aussi aux côtés du président, qui fait une grande instabilité qui est pas liée seulement au temps de travail, à l'énergie, et on sait à quel point à l'Élysée, dans les cabinets, les investissements humains sont très très forts. Ça vient aussi d'une dilution de ce qu'a été le macronisme des origines et d'un rapport au pays d'élité.
Merci beaucoup Stéphane Rosès. Je rappelle que vous êtes enseignant et également président de la société de conseil CAP et vous étiez l'invité du 5-7 ce
matin. Merci.